savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est la visite de Gabriel Attal qui continue à retenir beaucoup d'attention ici au Québec et surtout le discours qu'il a fini par livrer un peu en retard, mais qu'il a livré tout de même hier au Salon Bleu. Discours dans lequel il n'a pas pris position, bien évidemment, en suivant sa ligne de non-indifférence, non-ingérence envers le débat sur un futur référendum d'indépendance du Québec. Mais
d'autant plus que le débat se pose pas beaucoup présentement. Là. La pression, à part quelques journalistes, la pression n'était pas si forte sur lui cette fois-ci.
Non, mais il a abordé quand même un autre enjeu qui est assez sensible ici dans les relations Canada-Québec, l'enjeu de la laïcité. Là. Alors qu'on apprenait hier dans la même journée là, que mercredi soir du côté de la Commission scolaire English Montreal, on va pousser jusqu'en Cour suprême la contestation de la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21. Ben, M. Attal a fait un vibrant plaidoyer là, pour la laïcité ici au Salon Bleu en disant que c'était un des éléments pour lui de la liberté et de la démocratie. Parce qu'en France, il y a une longue tradition quand même de laïcité aussi. C'est un point commun qui vient rejoindre quand même le Québec et la France. Puis c'est une apparition quand même solide que fait M. Attal ici, qui a marqué les esprits. Là.
Oui. D'abord, je pense que les gens ont découvert un orateur hors norme, là, un orateur de grand talent. Peut-être ça explique les gens qui se demandaient, voyons, lui, il était partout ce qui est passé, le plus jeune ministre, plus jeune premier ministre, tu sais, il gravit les échelons, là, les marches d'escalier une par année. Qu'est-ce qui se passe avec cette carrière-là? Peut-être les gens vont mieux comprendre que c'est une vedette politique présentement en France et pourquoi. Mais il a redit ce matin, là, il a réexpliqué, il a soutenu sa position sur la laïcité en point de presse et c'est une position fondamentale. Il a été, lui, ministre de l'Éducation pendant 6 mois. Il a agi sur la question des signes religieux. En fait, il a renforcé une loi qui existait déjà. Donc, c'est un naturel pour lui. Là. Il n'invente rien pour faire plaisir au Québec. C'est un naturel pour lui. C'est un naturel dans ses prises de position. Mais on comprend que François Legault était très, très, très content de ça. Et ça vient vraiment renforcer sa position, renchausser sa position. Ça vient aussi nous sortir un peu de la... Parce qu'à un moment donné, ça devient juste de la poutine. C'est-à-dire que nous, mettons, là, au Québec, quand on a parlé de la laïcité, là, puis là, genre, je parle pas, mettons, il y a plusieurs années, mais dans la dernière année, mais là, on appelle ça la loi 21, puis là, il est contesté devant les tribunaux, puis là, ils vont aller en appel, puis là, le gouvernement a gagné, puis là, maintenant, ça va à la Cour suprême, puis la Cour suprême, le fédéral va s'en mêler, puis le fédéral va payer les avocats. Tu vois, on est dans toutes sortes de mécaniques, au point où on ne parle plus jamais, on parle de la prochaine étape, là, tu comprends,
dans des espèces dans de... une contestation judiciaire, mais plus de la laïcité comme principe fondamental.
Pourquoi on a fait ça? Pourquoi c'est... Alors, quand quelqu'un arrive de l'extérieur, comme là, un premier ministre français, lui, probablement qu'il n'est même pas au courant du fin détail de toute la mécanique des contestations, de tous les problèmes, puis, tu sais, lui, c'est plus le concept général, et donc, il vient ramener ça, tu sais, vient ramener le débat à ses sources fondamentales. Et ça fait du bien. Puis je dirais, ma prédiction, c'est qu'on a un François Legault de bonne humeur là, pour 3 semaines, 1 mois.
Hey, oui, t'as-tu vu son visage à côté de M. Attal? Il le regardait parler avec les étoiles dans les yeux, gros sourire.
Ils ont pas le même style, hein?
Non.
pas la même façon d'exprimer les choses, tout le panache et la finesse. Alors que François Legault garde les choses plus simples, fait plus le... C'est l'homme d'affaires, là, qu'il faut que ça marche, puis tout ça. T'avais deux styles, mais ils s'entendaient là-dessus. Et ça sort pour une semaine, ça sort François Legault de, les écoles, les hôpitaux, tout ce qui marche pas, puis tous les problèmes qui sont le quotidien de n'importe quel gouvernement du monde, là, tu sais.
Ce qu'il appelait les distractions
du quotidien. Donc là, il était sorti de ça pendant quelques jours et donc ramenait des choses plus fondamentales.
Oui. Une autre chose fondamentale de laquelle on parlait, mais c'est le français, une déclaration commune aujourd'hui pour renforcer le français ensemble. Qui a été signé, parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, là, ce processus-là avec la France, ça datait de 2016. Donc, il fallait renouveler tout ça, parler encore une fois des géants du web, les GAFA et tout ce que ça entraîne aussi là, comme empiètement de l'anglais sur la langue française. Donc ça aussi, c'est une autre valeur commune.
Deux petites remarques. Il ressort quand même un point d'interrogation de cette visite. C'est la prochaine, qui n'est non pas celle-là de M. Attal, mais de son boss.
M. Macron.
Du président de la République, Emmanuel Macron, dont on sait maintenant qu'à la fin de l'été, il va venir au Canada. Et j'insiste pour dire, il va venir au Canada.
Pas au Québec.
On ne le sait pas. Pour l'instant, ce qui a été dit, c'est que non, dans le programme, entre guillemets, préliminaire, tel que préparé à l'heure actuelle, il ne viendrait pas au Québec. Mais ce matin, à LCN, je parlais avec Lynn Beauchamp, là, qui a l'expérience qui a été pendant quelques années la déléguée du Québec à Paris, donc qui a vécu les relations. Elle dit « Soyons prudents. » Parce que au Quai d'Orsay, là, le ministère des Affaires étrangères de la France,
ouais,
c'est pas le plus chaleureux que le Québec. Pour eux autres, là, gardons ça simple, on fait affaire avec les ambassades, l'ambassade est à Ottawa, puis nous autres, on fait affaire avec le Canada. Ça, semble-t-il que c'est pas le ministère le plus sympathique au Québec, là, le ministère de la Culture ou le bureau du premier ministre, qui font des relations avec le Québec. Donc, elle me disait, Lynn Beauchamp, ben, ça se peut que la première version, on organise un voyage au Quai d'Orsay, on n'a pas la sensibilité québécoise. Et quand quelqu'un, peut-être même Gabriel Attal de retour de voyage, peut-être même que le président Macron lui-même ou quelqu'un d'autre va dire, hey, si vous passez pas au Québec, là, c'est pas un scandale, mais c'est un malaise, mettons.
Ouais, ça va pied
être...
de nez, là.
Oui, ça va être souligné, puis dans l'amitié entre la France et le Québec, ça va... tu sais, de dire, le président français passe au Canada. Il semble-t-il que c'est arrivé une fois dans l'histoire qu'un président français qui voulait, je pense que c'était la question de l'énergie, puis allait juste dans l'Ouest canadien, ne s'était pas arrêté au Québec, puis ça avait été mentionné. Donc, est-ce que Emmanuel Macron pourrait le refaire, ou est-ce que il y a des interventions qui vont se faire, puis il va faire un petit saut au Québec ou un arrêt sur le chemin dans un des aéroports québécois?
Pourrait, parce que là, il est dans les maritimes, de ce que je comprends trajet préliminaire des maritimes. Suggestion, il pourrait s'arrêter en Gaspésie, hein? Manger de la guédée, puis regarder les paysages,
ben
ça
ouais,
fait du bien.
Tout est pour aller aux Îles-de-la-Madeleine.
Pour aller aux Îles-de-la-Madeleine.
C'est un seul Québécois. Donc, à surveiller, à suivre ce qui va arriver avec le voyage du président Macron. L'autre petite remarque, accessoire au voyage, c'est l'absence de députés là, qui a été remarquée quand même hier. Entre autres, des députés de Québec solidaire. Moi, ça m'a frappé quand Gabriel Nadeau-Dubois, parce que moi, j'ai réécouté là, les discours, ben, voyons, on dirait que Gabriel, il est tout seul. Tu sais, on en voit un ou deux derrière de lui, mais c'est tout vide autour.
Oui, les banquettes, là, les bancs de l'Assemblée nationale, il n'y avait personne.
Ben, il en manquait plusieurs. Alors là, on nous dit Québec solidaire, là, on met de côté Manon Massé qui a des problèmes de santé, mais il en manquait quatre. Il en manquait plus que le tiers des députés en santé. Là. Est-ce que c'est normal? Il y en a qui manquaient aussi quelques libéraux. On a souligné ça. Bon, mais dans le cas de Québec solidaire, un parti qui se dit nationaliste, veut faire la souveraineté, le premier ministre français se présente à l'Assemblée nationale. Ce matin, j'ai interviewé Ruba Gazal. Elle me dit non, on avait des affaires indéplaçables. Finalement, elle pose plus de questions. Deux députés étaient dans une réunion avec un petit groupe d'élèves. Dans le comté de Taschereau, c'est le comté du Parlement. Le Parlement est dans le comté de Taschereau. Donc, ils étaient
dans le coin. Là.
Ils étaient juste à côté, dans une réunion prévue, semble-t-il, indéplaçable. Mais tu sais, avec un groupe d'élèves, en début de soirée, à l'heure du souper, je ne sais pas trop. Donc, c'était un petit peu curieux, un petit peu bizarre. Et d'autant plus que il y a un député de Québec solidaire qui avait, quelques jours avant, deux jours avant, parlé en mal. Contre, ben, pas Gabriel Attal, l'individu, mais que ce parti-là, c'est pas un parti dont on respecte les politiques, dont on aime les politiques, on n'aime pas leur politique, puis tout ça, dans une sortie extrêmement maladroite. Fait que là, tu te dis, OK, est-ce qu'on fait 1 plus 1 égale 2? On n'aime pas tellement ce parti-là, puis sais-tu quoi? Mais finalement, on se présentera pas. On nous jure, je vous dis, j'ai parlé à des gens aujourd'hui de Québec solidaire, des communications, on nous jure qu'il n'y a pas eu de mouvement concerté, qu'il n'y a pas eu de boycott, que c'était des activités prévues, qu'on peut...
Mais disons que l'apparence...
L'apparence est vraiment pas bonne, puis il en reste quand même pour Québec solidaire. Là. Au minimum, si je veux être généreux, une trace de mauvais jugement là, dans l'établissement des priorités à l'agenda.
Tout savoir en 24 minutes.
Suivi dans cette histoire de la fille des chroniqueurs, ici à Cube Radio, Richard Martineau et Nathalie Collard de La Presse, hein, qui avaient reçu un coup de poing en plein visage à une station de métro la semaine dernière. On dit que la femme, la suspecte dans cette histoire-là, femme de 35 ans, a été arrêtée par la police, par la SPVM, là, il y a à peine une heure, Mario. Nouvelle qui est tombée là, sur le fil de presse. Devrait comparaître vendredi après-midi. On parle d'accusation de voie de fait qui aurait causé des lésions corporelles.
Est-ce qu'elle est en mesure, parce qu'il semblait avoir un questionnement, est en mesure de faire face à la justice?
C'est préliminaire pour le dire. Puis là, ouais. va falloir voir dans...
Ben, ça semblait même être une question, là, a priori, quand on nous racontait l'événement.
Oui, parce que c'est pas comme s'il y avait eu là, altercation ou échange de paroles. Non, c'est du rapport qui a été fait à la police. La femme est sortie du wagon de métro, puis en sortant, criait, avait l'air complètement instable, puis aurait donné un coup de poing là, sans aucune raison apparente, donc, à la fille de Richard, notre collègue ici. Donc, bonne nouvelle, au moins, on verra après ça qu'est-ce qu'il y en est. Puis comme tu dis, c'est beau une comparution, mais si on a affaire à quelqu'un qui a des problèmes graves de santé mentale, consommation de drogue...
Qui ne sait même pas ce qu'elle fait au tribunal ou ce qu'elle a fait la semaine passée, c'est une autre affaire.
C'est une autre affaire, mais dans tous les cas, ça fait une personne auprès duquel on va pouvoir avoir une intervention.
Il fallait faire cette intervention-là, il n'y a pas de doute. Je m'interroge juste à savoir est-ce que la personne va être en mesure là, de subir son procès.
Actualité.
On a aussi du nouveau du côté de l'enquête sur Megan Lalonde, Mario. Dossier...
Maître. Ah non, on ne dit pas maître.
Maître. Je ne suis pas sûr qu'on peut le dire. En tout cas, selon le barreau du Québec, on peut absolument pas le dire dans le cas de maître. On va le dire en riant en ce moment. Megan Lalonde, article de notre collègue Francis Pilon du Journal de Montréal qui suit cette histoire-là à la trace. Et là, on a un peu de nouveau dans ce dossier-là. Parce que, je rappelle l'histoire, c'est une femme là, qui arnaquerait un peu partout au Québec des gens qui viendraient chercher auprès d'elle des espèces de conseils juridiques. Là. Je dis conseils juridiques entre guillemets, parce que je répète, ce n'est pas une avocate, cette femme-là. Elle le prétend, mais elle ne l'est pas.
Mais sur les réseaux sociaux, elle se présentait comme avocate.
Présente comme une avocate, puis avec une apparence là extrêmement léchée, voire même suspecte. Là, une femme là, blonde qui s'affichait là un peu partout. Vraiment presque comme une influenceuse, Mario. On veut le voir ici à l'écran pour ceux qui écoutent là, en direct les images qu'elle prenait. Et là, ben... C'est que depuis que ça a été publié une première fois, là, parce qu'elle avait un modus operandi, hein, cette dame de 24 ans partait là, donc sur ses réseaux sociaux, disait « je peux offrir des conseils », les gens l'approchaient, elle demandait un dépôt pour donner des conseils juridiques. Quand quelqu'un en ligne vous demande un dépôt pour à peu près quoi
méfiance.
Que ce soit, méfiance, surtout quand c'est des conseils juridiques. Et évidemment, les gens qui lui donnaient l'argent en question, ben elle disparaissait sans jamais laisser de traces et sans répondre à la personne. Et là, depuis qu'il y a eu ces révélations-là du journal, semble-t-il que nos collègues ont été contactés par pas mal de monde qui se sont mis à dire « Madame Megan Lalonde, c'est parce que c'est pas ses premières frasques. Elle aurait fraudé toutes sortes de gens. On dit en Beauce, à Shawinigan, à Joliette, à Gatineau. Il y a au moins 6 accusations de fraude par le passé qui ont été déposées contre cette femme-là. Qui...
Mais pas pour la même chose, pour d'autres types, pas pour des histoires d'avocates. Là.
Avant ça, par exemple, elle avait vendu, selon un témoignage qu'on a reçu sur un site de liquidation, un gazebo à 4 000 $. Quelqu'un a payé, il n'a jamais reçu le gazebo, elle a refusé de rembourser. Le gars a dû se battre avec sa carte de crédit pour récupérer ça. Mais elle a véritablement fraudé dans toutes sortes là, de stratagèmes par le passé.
Et était condamnée dans le passé.
Et était condamnée.
Donc, elle a une certaine expérience du droit, même si elle n'est pas avocate comme telle.
Le plus drôle, c'est qu'elle...
Elle a été condamnée.
Tu ris, Mario, mais elle prenait des vidéos et elle publiait. Et surtout, ce qui est le plus drôle, c'est qu'on nous envoie un cliché de la dame en question, Megan Lalonde, là, à droite, l'image qu'elle présentait sur ses réseaux sociaux, pour ceux qui regardent. À gauche, on a Megan Lalonde dans vraie vie. Elle met des filtres puis des logiciels d'intelligence artificielle par-dessus elle-même, de ce qu'on comprend, pour modifier son apparence.
Elle est modifiée. Je confirme.
Voilà. Donc, qu'elle modifie comme ça, puis ça va encore plus drôle. Mario, tu dis, oui, elle a une expérience du palais de justice. On comprend même qu'elle publiait des stories, hein, tu sais, des photos, des petites histoires comme ça sur les réseaux sociaux, alors qu'elle se trouvait au palais de justice en disant, ah, je me promène, là, je suis en deux salles de cours, je suis essoufflé au palais de justice de Drummondville. Mais c'est parce que t'es pas là pour représenter quelqu'un autre qu'elle-même, Mario.
Elle est accusée.
Voilà, elle est accusée dans ces dossiers-là.
Ouais. Alors, mais c'était pas faux qu'elle courait dans le corridor du palais de justice. Mais...
Non, ça, là-dessus, on ne peut pas dire qu'elle a menti.
Ouais.
Voilà, et là, ben, elle a été contactée par nos collègues aujourd'hui même et elle a dit que...
Parce que là, c'était pas son vrai nom non plus. Elle est pas maître, mais elle est pas non plus Megan Lalonde.
Mais elle dit qu'elle ne s'appelle pas Megan Lalonde, qu'elle s'appelle plus Megan Lalonde en disant que c'est pas son vrai nom. Elle insiste pour dire qu'elle est encore avocate, qu'elle l'est, là, que ça, c'est, tout ça s'est confirmé de son côté. Sauf que, ben, toutes les victimes potentielles là, qui ont contacté nos collègues disent que oui. Son nom, c'est bel et bien Megan Lalonde, c'est le nom qu'elle utilisait, puis c'est le nom qu'elle utilise. Mais Mme Lalonde, elle, a nié là, au journal en disant que si elle fraude depuis des années, ben pourquoi elle n'a pas été arrêtée? C'est que tous les chefs d'accusation qu'elle a eu jusqu'ici, ben c'est des... elle a fait, par exemple, des travaux communautaires, elle a fait des périodes de probation, elle a payé des amendes, mais elle n'a pas fait de la prison, là. C'est pas des fraudes assez grosses et énormes pour qu'elle puisse aller faire du temps dedans.
Mais parce qu'au Québec, là, à moins d'un meurtre, faut que tu le demandes au juge, faut que tu supplies le juge.
Supplie, aller en prison.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça ressemble à ça. Donc, c'est toute une histoire, tout un travail de nos collègues du journal. Je rappelle Francis Pilon qui était là-dessus, entre autres. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite pour cette... avocate, fausse avocate, parce que là, le barreau du Québec a déclenché une enquête aussi sur son cas, parce que croyez-le ou non, prétendre que vous êtes avocat quand vous ne l'êtes pas, Mais vous ne pouvez pas faire ça.
Non, mais c'est une faute. Mais si elle est vraiment avocate, si elle a néanmoins commis des fautes professionnelles en tant qu'avocate.
Là. Oui, puis en tant qu'individu aussi. Le vendre un gazebo puis jamais le donner, ça non plus, c'est pas gentil.
J'ai l'impression qu'on va entendre parler d'elle.
Tout savoir en 24 minutes.
Annonce aujourd'hui de la vérificatrice générale du Québec qui va enquêter sur une situation qui a été qualifiée de fiasco par le ministre qui dirigeait lui-même l'opération un peu de loin, le déploiement de SACLIC du côté de la Société d'assurance automobile du Québec. Peut-être que c'est rendu un mauvais souvenir dans la tête de certains, mais quand ça a été déployé, ça a été un beau gâchis. Merci. Là,
mais c'était janvier-février, surtout février de l'année passée, là, 2023. Mais en avril, à pareille date de l'année passée, on était encore dedans. On n'était plus au cœur de la crise, mais il y avait encore des files d'attente. Il y avait encore des gens qui avaient des problèmes. Là,
ben oui.
Les gens, par exemple, qui déremisaient un véhicule qui avait été remisé pour l'hiver. Ben, il y a eu des problèmes jusqu'à pareille date l'an dernier et plus.
Ouais, ça a été très long. Là. Les deux semaines pendant lesquelles on a fermé tous les centres de services de la SAAC, bien, ça a causé des files monstres par la suite dès qu'on les a réouverts.
D'autant plus que ça marchait pas complètement. Les nouveaux systèmes ne marchaient pas complètement. L'inscription. On pensait faire des miracles en disant dorénavant, les gens vont pouvoir faire leurs transactions en ligne, donc ils se présentent plus dans les succursales, mais tout ce qui était inscription en ligne a connu des ratés épouvantables. Donc, il y avait encore plus de monde dans les succursales. Puis on a fini par dire aux gens, mais si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire en ligne, venez nous voir en succursale pour qu'on vous le montre. Donc, ça a été bordélique. Et là, la vérificatrice générale enquête à son tour.
Oui, elle va se pencher, Mme Guylaine Leclerc, là-dessus, parce que le contrôle lui-même là, pour sa clique, on savait combien ça a coûté, 573 millions de dollars, hein, un beau demi-milliard pour tout ce beau déploiement. C'était excessivement onéreux, mais on apprend aussi l'argent que ça a coûté juste gérer la crise
elle-même. Oui, ben, en temps supplémentaire, en embauche de personnel d'urgence, de sécurité.
465 personnes qu'on a embauchées d'urgence, 28 millions aux contribuables. Heures supplémentaires, 6 millions de dollars. Pour des agents de sécurité, 2,9 millions de dollars. Pour la communication autour de la crise, 4,4 millions de dollars. Facture totale, 41,3 millions de dollars. C'est ce que ça va avoir coûté.
Donc, la vérificatrice va aussi se pencher là-dessus. Mais autre point intéressant, et je dois confesser, je n'avais jamais vu ça. C'est peut-être moi qui ai nono, mais je n'avais jamais vu ça. C'est quelque chose, je pense, d'assez récent. Maintenant, la vérificatrice générale a un onglet. Si vous allez sur la page, là, il y a un onglet « Participer ou contribuer à cet audit », un audit étant une vérification. Et donc, vous allez cliquer là-dessus et vous allez voir toutes les enquêtes qui sont ouvertes de la vérificatrice générale. Je pense présentement qu'il doit en avoir 12, 13, je ne sais plus trop. Mais vous allez toutes les voir. Donc, ça clique, vous allez le voir. Là, il est en bas à droite. Et vous pouvez participer. Donc, je ne donnerai pas les... Mais dans le cas de ça clique, une personne peut y aller. Il faut s'identifier, là, ton nom, ton adresse, qui est-ce que t'es.
Ou même pas, Mario. Il y a moyen de donner des témoignages anonymes.
Ça, je ne savais pas. Moi, j'avais vu qu'il fallait s'identifier. Mais de toute façon, donc là, vous allez avoir un paragraphe, un lieu pour écrire qu'est-ce que vous avez vécu. Vous avez même une place pour mettre des pièces jointes. Donc, si vous avez pris des photos de files d'attente débiles dans la neige dehors, ou si vous avez, par exemple, la SAAC, vous a envoyé une lettre par erreur, puis une autre lettre, puis vous avez de la documentation qui démontre le ridicule d'une situation, qui vous ont fait attendre, qui vous ont fait travailler deux fois, vous pouvez photographier ou scanner, joindre ces pièces-là et les envoyer. Donc, la vérificatrice veut pas juste vérifier, on va dire, la grosse affaire, là, l'argent, puis tout ça, mais elle veut aussi inclure dans sa vérification ce qu'ont vécu les clients, ce qu'ont vécu les citoyens comme désagrément. Puis je trouve ça quand même pas mal intéressant.
Oui, ça reste à voir. Donc, si vous avez eu des problèmes justement que ça a cliqué, allez contribuer.
Ne serait-ce que pour vous défouler.
Oui, juste envoyer des belles photos de vous en train de faire du camping devant un bureau de la SAAC. Là.
Ne serait-ce que pour vous défouler, la vérificatrice va recevoir votre plainte.
Économie.
Ça me fait rire, Mario, parce que tantôt, tu parlais là, de devoir supplier un juge pour aller en prison au Québec. Mais on a un autre cas de fraude qui a été répertorié aujourd'hui et qui, justement, démontre encore une fois là, que quand vous passez devant le tribunal, des fois, vous pouvez récidiver presque immédiatement. C'est le cas de Carl-René Moody, qui est un fraudeur en série puis qui a été condamné aujourd'hui là, à devoir rembourser là, des centaines de milliers de dollars à des victimes qu'il a escroquées là, avec une fraude comme on en voit beaucoup là, par les temps qui courent, mais avec un stratagème quand même élaboré là, qui incluait un groupe de personnes. Là. Lui sévissait, cet homme de 21 ans d'ailleurs, là, pas très vieux, maintenant qui va purger 23 mois de détention, c'est ce qui lui reste. En fait, condamné 23 mois de détention, il reste juste 22 jours. Mario, donc, va purger 22 jours et retourner ensuite dans la collectivité. Mais c'est que depuis mars 2022, là, le SPVM le surveillait comme il faut parce qu'il y avait une stratégie assez élaborée, merci. Il était avec des complices et là, ben, eux trouvaient des personnes âgées, la plupart du temps, les appelaient, un complice qui appelait en disant, ben ouais, je suis avec Desjardins, il y a un problème avec votre carte, il faut que vous mettiez ça dans une enveloppe et que vous nous envoyez tout ça en nous donnant votre NIP. Et là, ben, les gens faisaient la chose, mettaient l'enveloppe. Et là, un autre complice, dans plusieurs cas, ça a été M. Maudit lui-même, débarquait chez la personne avec des habits qui étaient des mêmes couleurs, à s'y méprendre, des employés de Poste Canada. Et donc, venait récupérer l'enveloppe en disant « Oui, oui, c'est bon, on prend ça, on va ramener ça chez Desjardins ou chez autres. » Évidemment, prenait la carte, prenait le NIP, allait vider les comptes en banque au grand complet, puis partait avec le magot. C'est ce qu'on comprend de cette stratégie-là.
Quand quelqu'un vous demande votre NIP...
Faites juste pas le donner.
C'est non.
Donnez-le jamais.
C'est non.
Quelqu'un vous demande un dépôt, quelque chose en ligne.
Soit la banque, à la caisse ou à la banque, ce qu'ils vont vous faire, là, ils vont vous donner le terminal, là, puis ils vont regarder ailleurs, puis ils vont vous faire rentrer votre NIP.
Vous demanderont
mais tu
moi.
Peux pas le mettre sur un papier, tu peux pas le donner à Pierre-Jean-Jacques, tu peux pas le donner à un inconnu, même s'il y a un costume propre sur le dos.
Oui, exactement. Puis là, ben, dans une période, en mars-juin 2022, lui a joué comme tous les rôles, appelait, se déguisait en agent, allait chercher tout ça.
On a-tu une idée de combien d'argent il a escroqué?
Mais là, le groupe lui-même, là, en tant que tel, on estime qu'il a fraudé pour près de 200 000 $ auprès des aînés un peu partout. Là, le problème, c'est qu'il a été arrêté. Par la suite, remis en liberté le jour même. Puis là, mais dès le lendemain, on signale encore une fois des événements de fraude à peu près pareil. On se rend compte ben, qu'il est relié à au moins 4 autres fraudes pendant ce temps-là. Le lendemain, où
et
il est relâché.
Et qu'il a eu peur de la justice.
Voilà, c'est terrifiant hein, pour ce jeune homme.
Terrifié, c'est le bon mot, par la justice québécoise.
Voilà, puis on pourrait même plus découvrir...
L'effet dissuasif de la justice.
Ouais, puis moi, un détail qui m'a accroché dans cette histoire-là, Mario, c'est que Moody, là, dans l'analyse de ses systèmes informatiques, son cell, son ordi, etc., on s'est rendu compte qu'il a fait au-dessus de 500 recherches sur le site Canada 411, tu sais, pour voir les adresses, le nom du monde, etc. Mais il faisait des recherches avec des prénoms de personnes plus âgées. Tu sais, d'une génération, mettons, là. Fait qu'il recherchait Huguette à Verdun. Il y a peu de gens de 20 ans, 30 ans qui s'appellent Huguette, ou moins, mettons, ou Jacques à La Salle, Yvette à Verdun. C'était des recherches qu'il faisait sur son ordi pour essayer de trouver des gens plus âgés, puis ensuite aller les escroquer. Bref, c'est tout un stratagème qui est dénoncé comme ça, puis qui, malheureusement, on le voit, ben. La justice, des fois, c'est pas non, super dissuasif.
Pas sévère, oui. Voler des vieux puis ramasser des jours de prison, ben, t'sais, c'est incroyable.
Le monde.
Les tensions sont très élevées en ce moment au Moyen-Orient, alors qu'on s'attendait là, du côté et de la Maison-Blanche et d'Israël à recevoir une attaque de représailles du côté de l'Iran. Et dans la dernière heure, Mario, il y a eu des tirs de roquettes qui ont été effectués là, sur le nord de l'Israël. On a entendu des sirènes d'alarme dans ce coin-là. Quarantaine de roquettes tirées par
est-ce
le Hezbollah.
Est-ce que c'est OK, par le Hezbollah du Liban?
Voilà.
Donc, c'est pas en provenance de l'Iran.
C'est pas en provenance de l'Iran, mais
c'est un bras armé qui travaille, une marionnette de l'Iran, le Hezbollah. Là.
C'est ce qu'on
une
sait.
Milice qui travaille pour l'Iran.
C'est ce qu'on sait, bien évidemment, mais on a quand même peur. Puis même, c'est quelque chose qui a été réitéré par Joe Biden, le président américain, cet après-midi.
Non, mais là, les Français ont demandé à leurs voyageurs de ne plus aller en Iran. Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, a annulé ses vols, ne vole plus sur Téhéran. Il y a une réelle crainte là, que le conflit devienne régional, là, c'est-à-dire Israël, l'Iran, que le conflit... On parlait plus vraiment de ça. On a craint ça après le 7,
Au début,
le 7 octobre. Les premières semaines, on craignait que ça devienne un conflit régional. Mais là, depuis Noël, mettons, c'est la grosse question, c'est la situation humanitaire à Gaza. Mais il y a beaucoup moins cette crainte-là à l'échelle internationale, beaucoup moins la crainte d'un conflit qui s'embrase à l'échelle régionale. Mais là, c'est depuis 48 heures... C'est revenu dans l'actualité plus que jamais comme crainte.
Ouais, absolument. Puis les États-Unis ont renvoyé des renforts dans la région. Là, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle un Carrier Strike Group, là, qui est déjà là situé dans la Méditerranée. Un porte-avions, plusieurs navires d'escorte. Là. Il y a une présence américaine militaire dans le coin qui avait pour but au départ là, de dissuader un peu tout le monde puis les acteurs internationaux dans la région de venir intervenir. Là... On s'attend au pire de ce côté-là. Je rappelle quand même que l'Iran a promis là, verbalement de riposter après qu'il y ait eu une frappe meurtrière le 1er avril dernier contre son consulat à Damas, une frappe qu'ils imputent à Israël. Bref, c'est vraiment loin d'être réglé dans ce coin-là, cette situation-là.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.